Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Combien ça me coûte finalement de créer du contenu sur Internet? Aujourd'hui, je vais vous dire le chiffre. Et qu'est-ce que j'ai pensé aussi du documentaire de Squeezie? Et sur quoi je me forme? Et un petit peu aussi ma vision de ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde de l'entrepreneuriat et des créateurs de contenu. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, j'espère que de la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Cheveux Blancs, Idées Longues, le podcast sur l'entrepreneuriat et entreprendre notamment quand on a 40 ans, même si c'est sur internet, même en étant créateur de contenu, même si on a l'impression que finalement c'est réservé aux jeunes, hein, que c'était fait pour les jeunes et que nous sommes un peu des vieux croutons. Non, nous ne sommes pas foutus, on peut se lancer à tout moment, même quand on n'y connaît pas grand-chose à la technique, et même quand on a été salarié pendant tout le début de sa carrière. L'idée de ce podcast, c'est justement d'aborder les stratégies pour construire un business qui nous accompagne sur les années qui viennent, qui sont des très belles années, il faut le dire, hein, quand on a 40 ans et plus. Moi, j'en ai 47 et je suis vraiment, vraiment très heureux d'être un créateur de contenu, de faire du podcast, de faire du coaching. Et je voudrais vraiment, vraiment vous accompagner dessus, vous montrer aussi les coulisses, vous donner des conseils sur le marketing, l'entrepreneuriat, l'organisation, l'état d'esprit, la forme, et vous montrer aussi un petit peu comment tout cela se passe. Et c'est le but notamment des épisodes Carnet de bord, dont aujourd'hui ça va être le 13e épisode, quelque chose comme ça. Vous savez, c'est des épisodes finalement où je n'ai aucun script, mais de toute façon je n'ai aucun script dans mes épisodes, mis à part un petit peu l'intro. Et quand j'ai l'intro, c'est 3 lignes. Mais en fait, le but du jeu, c'est de vous livrer un peu, là, un petit peu façon blog. Ouais, j'étais un blogueur, moi, hein, j'ai commencé par le blog. Donc c'est un petit peu vous livrer un petit peu mes sentiments sur des choses et puis vous donner un petit peu les coulisses pour que vous situez un petit peu les éléments. C'est un format que je sais que vous appréciez. J'ai souvent des retours dessus. Je sais que ça vous permet aussi de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de certaines choses que je fais, mais aussi certaines décisions que vous pouvez prendre. Et je le fais avec l'état où j'en suis moi. Hein. Je vous avais donné par exemple la dernière fois mes prévisions, en tout cas pour moi, hein, sur quoi j'allais sur le podcast, la volonté d'aller vers les 100 000 téléchargements par mois, voilà, des choses comme ça. Et maintenant, j'applique, hein, ce que je vous ai raconté. D'ailleurs, si vous écoutez Kimet 42, si vous écoutez Sport Nutrition, vous entendrez que les intros ont changé un petit peu, notamment dans le but de modifier la rétention, d'améliorer la rétention sur les épisodes. Et ça pose aussi des questions, d'ailleurs, sur certains formats, parce qu'il y a des formats où la rétention n'est pas très bonne, et puis il y a des formats où la rétention est meilleure. Donc l'idée, c'est un petit peu de vous dire où je vais et de vous dire surtout comment je fais et puis de vous tenir au courant au fur et à mesure. Alors bien sûr, l'avancement sur les 100 000 téléchargements par mois, je peux pas vous le donner aujourd'hui parce que c'est trop tôt, c'est trop tôt, au bout de 15 jours, on peut pas. Voilà, on est dans la dernière semaine du mois de janvier, déjà un bout de l'année qui est passé. Tout à l'heure j'étais en train de courir, et je me disais, si je découpais mon année en période de 3 mois, vous savez, les fameux 90 jours, on serait déjà à un tiers du premier tranche de 90 jours. Moi, 90 jours, c'est un peu un format qui est un petit peu loin. Et après, je me suis dit, quand je fais une préparation marathon, par exemple, en courant, je suis sur 12 semaines. Et 12 semaines, finalement, ça fait 94 jours. Mais j'aime bien les préparations de 10 semaines. Donc, je suis plutôt sur 70 jours, dans laquelle, derrière, je mets 2 semaines un petit peu de répit. Ce qui veut dire que les 30 jours, finalement, normalement, par rapport à un premier objectif, je serai presque déjà à la moitié, c'est-à-dire que quand on aura fini la semaine qui vient, je serai à la moitié notamment de mon premier objectif de l'année. Est-ce que je l'aurai atteint ou pas? Sachant que c'est pas l'histoire des 100 000 téléchargements, ce serait plutôt de lancer un nouveau programme. Bon, je vous en parle à la fin parce que dessus je commence à avancer quand même et vous allez peut-être pouvoir m'aider. En tout cas, si vous recevez le mail, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes abonné à mon compte Instagram, j'ai déjà mis un lien. Donc je vous mettrai quand même un lien dans la description vers quelque chose pour vous expliquer les choses. Maintenant, je vous ai promis dans l'intro que je vous donnerai un petit peu mes frais pour l'année, de ce que ça coûte, etc. Je vais vous donner un chiffre, qui est le chiffre à peu près du mois de décembre, de combien ça me coûte de créer du contenu en ligne avec les outils que j'utilise. Et je me rends compte qu'en plus j'en oublie un. Donc je le rajoute dans ma liste quand j'ai quand je fais le calcul. Je me rends compte que j'ai oublié de le mettre dans mes frais. c'est pas négligeable cette histoire-là, donc ça rajoute une petite somme. Et je vais vous dire exactement l'histoire du truc. Donc j'utilise en abonnement tous les mois Podia pour héberger les formations, Podia Mail pour envoyer les mails, Zoom pour enregistrer la plupart du temps des podcasts. J'ai un abonnement pro sur Zoom. Calendly pour les prises de rendez-vous. J'ai des prises de rendez-vous pour les coachings. J'ai des prises de rendez-vous pour les podcasts. Différentes prises de rendez-vous pour les différents podcasts, pour les différents coachings. Les appels découvertes, etc. Donc, je suis obligé d'avoir une version payante de Calendly qui me coûte $15 par mois. Zoom, ça coûte $15 par mois. Podia, ça coûte $39 par mois. Donc, environ 36€. Plus Podia Mail, ça coûte quand même 12,50€ par mois. Quelque chose comme ça. Donc, on va arrondir hein, que c'est pratiquement on va dire un gros 50€ pour Podia, $50 ou 50€, à peu près, c'est un peu moins parce que selon les mois, en fait, ça fait plus ou moins avec le taux de change. Ça, c'est la base. J'ai aussi intégré ManyChat qui me coûte la bagatelle en ce moment autour de $25 par mois. Canva qui m'en coûte 12, je crois, hein, une histoire d'argent là. Et puis ce mois-ci, j'ai testé d'avoir ChatGPT, de voir un petit peu ChatGPT-4 avec les plugins, etc. Donc la version payante pour voir un petit peu ce que ça pouvait faire. Et OpusClip. Alors OpusClip, je sais pas si vous connaissez le principe d'OpusClip qui est fait par la même boîte que ChatGPT. C'est vous lui donner une grande vidéo assez longue, hein, le temps que vous voulez d'ailleurs, comme vous voulez. Et puis lui va la découper en morceaux. Vous lui dites, je veux des morceaux de 30 secondes, etc., qui vont faire des réels, qui vont faire du TikTok, qui vont faire des shorts. Il fait le sous-titrage. Et en fait, on peut même faire un petit montage directement en texte pour dire, bah, tu commences, je veux ça, ça, ça. Mais lui, en fait, ce qu'il va faire, OpusClip, c'est qu'il prend la grande vidéo, il analyse tout le texte, et puis il va faire 10 clips. Et ces 10 clips, en fait, il va leur donner un score de viralité, un score de, je sais plus comment il appelle ça, en fait, d'opportunité. Il met un petit descriptif de pourquoi c'est intéressant et puis il donne des ajouts en disant, ça serait intéressant qu'il y ait ça aussi à l'intérieur. Souvent, ce qu'il dit, c'est qu'il manque un appel à l'action. Ce qui veut dire d'ailleurs que c'est un peu compliqué parce que des appels à l'action sur des bouts de clips, quand il prend une vidéo, par exemple, alors si c'est un podcast qui fait une heure, s'il prend 10 vidéos dans un podcast d'une heure, il n'y a jamais d'appel à l'action dans un podcast d'une heure, sauf à toute la fin. Par contre, c'est très intéressant, si vous avez des vidéos, moi je pense, et ça c'est un truc que vous devez peut-être essayer, OpusClip coûte 10-15$ par mois, un truc comme ça, la première version. Si vous n'avez pas trop de vidéos, ça va passer assez crème, et puis vous avez une semaine d'essai, je crois, à peu près, avec les premières vidéos. C'est que si vous êtes sur YouTube, là c'est un truc qui est intéressant, c'est que vous êtes sur YouTube, un short peut être déclaré comme étant une vidéo qui est liée à une plus grosse vidéo, en fait. Donc l'idée, c'est que vous faites une belle vidéo pour YouTube. Ensuite, vous l'envoyez à OpusClip. OpusClip va la découper en petits morceaux. Il va la sous-titrer, mettre des petits emojis et tout. Donc, vous faites ce sous-titrage de cette manière-là, là, comme ça. Et ça vous fait 10 réels. Donc, voilà, ça vous fait 10 shorts hein, donc pour la plateforme. Ces shorts, vous allez pouvoir les mettre au fur et à mesure, peut-être un par jour, sur la plateforme en indiquant que ce short est lié à une plus grosse vidéo. Et si le short a du succès, comme il est un peu poussé par les algorithmes un petit peu en ce moment, moi j'ai des shorts par exemple qui ont fait 2500 vues, alors que j'ai des vidéos qui n'ont fait que pas beaucoup de vues au départ, mais le short fait 2500 vues, donc finalement il fait grossir la vidéo qui est liée. Bon, si vous avez 10 vidéos, que sur les 10 vidéos, il y en a une ou deux qui font plus de vues que les autres, on va dire 1000 ou 2000 vues, des shorts, hein, 1000 ou 2000 vues, et qu'il y a des gens qui cliquent et qui vont sur la plus grosse vidéo au-dessus, peut-être ça peut le pousser, et peut-être que OpusClip peut être intéressant pour ceux, parce que j'en connais d'entre vous qui ont une chaîne YouTube, ça peut peut-être être intéressant, parce qu'en fait, ça vous demande pas beaucoup plus de travail. Le truc, c'est vous mettez la vidéo, ça va vous demander, en fait, à chaque fois, 5-10 minutes pour chaque short, pour bien prendre le truc, savoir le texte où il démarre. Des fois, il faut corriger un petit mot, faut dire, non, ce mot-là, je le veux pas. Et lui, il refait le montage vidéo, en fait, tout seul. Il refait le montage vidéo tout seul. Et quand vous avez terminé, vous faites exporter, vous téléchargez la vidéo, vous publiez. C'est extrêmement rapide. Vous lui dites, je veux moins d'une minute pour que ça passe bien en short. Et si à côté, vous avez un compte Instagram ou TikTok pour faire la promotion de votre chaîne, eh ben, vous pouvez aussi le mettre dessus. Donc là, franchement, ça peut être très intéressant. C'est un super bonus. J'avais hésité aussi avec un outil qui s'appelle SubMagic. SubMagic est génial pour le sous-titrage d'IRL, des choses comme ça. Mais il n'a pas cette fonctionnalité de passer d'une grande vidéo à une petite vidéo. Bref. Voilà. Donc là, il y a cet outil-là est pratique. Bon, si je fais le total de tout ça, ça coûte, on va dire, presque 120, 130 euros peut-être même par mois, hein, comme ça, en frais fixes, j'ai envie de dire, en frais fixes, qui ne peuvent pas vraiment baisser. Alors, ManyChat, je pourrais le baisser un petit peu, là j'ai une petite astuce pour le baisser, pour le redescendre autour de 15 euros. Podia Mail, je peux pas, hein. Podia, de toute façon, c'est un coût qui est fixe, et même je vais plutôt l'augmenter pour avoir des nouvelles fonctionnalités dans pas longtemps. Podia Mail, plus on a de mails, mais là, ça va pas bouger pendant quelques temps, parce qu'il y a le plafond d'au-dessus, il est assez haut pour moi, et j'ai 50% de réduction en plus, donc si j'ai plus les 50% de réduction, ça va augmenter, mais si j'atteins le plafond au-dessus, ça va aussi augmenter, mais si j'ai plus de grosse base, normalement, je fais plus de ventes. Donc voilà, on va dire que l'un dans l'autre, ça va se tenir, cette histoire-là. Donc ça devrait le faire. Hein. C'est vraiment, ça devrait le faire. Calendly, ça bougera pas, mais je peux pas baisser, sauf si j'enlève une petite fonction, mais la petite fonction, finalement, me ferait économiser 2 euros. Alors après, une solution serait de passer sur cal.com, qui est gratuit, qui permettrait de faire à peu près la même chose. Je vais y réfléchir, parce que quand même, hein, c'est un outil Calendly qui me fait gagner énormément de temps. Pour ceux qui savent pas, Calendly, le gros avantage de Calendly, c'est que c'est connecté à mes agendas. Et donc, en fait, dedans, je mets des plannings et j'envoie des liens aux gens pour réserver directement. Réserver un coaching de préparation mentale, réserver pour enregistrer le podcast. Je peux mettre des questions pour qu'ils répondent à des questions et tout, comme ça, de quoi on va parler, etc. Et en fait, ils peuvent choisir s'ils voulaient le faire par téléphone, par Skype, par Zoom et tout. Et si vous le faites par Zoom, en plus, ça crée directement le rendez-vous tout seul dans Zoom. Donc, c'est quand même cool. Hein. Franchement, c'est quand même cool. Ça me fait gagner tellement de temps que finalement, les 15 dollars sont à peu près bien, bien intéressants. Ce qui va peut-être pouvoir le baisser, en fait, c'est qu'il y a certains de ces outils-là que je pourrais en prendre en paiement annuel, hein, quand j'aurai une question de trésorerie. Et notamment, c'est sur Podia qu'il y a une grosse question. Si je prenais la formule au-dessus en payant en abonnement annuel, ça me ferait une très grosse ristourne, très grosse ristourne, qui serait assez intéressante. Donc là, je suis en train de voir sur la trésorerie avec ma comptabilité, comptabilité, oui, je l'ai bien dit dans le bon mot, et ma compatibilité avec l'outil étant avérée. Maintenant, je peux passer à ma compta pour lui demander de prendre un an, même si ça pose après des petits problèmes d'immobilisation, en trésorerie et tout, enfin, j'ai fait des petits trucs, un petit peu des petits schmibliques, faut jouer avec elle, mais en tout cas, le seul moyen de baisser ce tarif-là, ça serait de prendre, finalement, des systèmes qui me permettraient d'avoir un abonnement annuel, donc pour baisser le tarif. Il y avait un autre outil qui m'intéressait, qui aurait pu remplacer Zoom, c'était Riverside, pour enregistrer les podcasts en distance, en vidéo et tout. Et Riverside, en fait, et ce qu'il fait, c'est qu'il est capable de générer les petits clips aussi pour les shorts et les réels, mais je crois pas qu'il soit capable de les trier tout seul comme fait Opus Clip. Mais bon, à la limite, si c'est que ça, hein, l'un dans l'autre, et dans ce cas-là, Riverside permettrait de supprimer Zoom, peut-être, et Opus Clip. Quoique Zoom pour le coaching, c'est quand même bien pratique parce que ça me fait sauter la limite aussi de 30 minutes. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est pas un truc, voilà, ça fait partie des outils que j'ai. Et donc, quoi que je vende, quoi que je fasse, que je sois en vacances ou que je sois en train de produire des choses, bah finalement, ce 120, 130, peut-être même 140 euros, je suis en train de calculer, je me rends pas compte maintenant, un peu là comme ça, parce que j'ai rajouté un ou deux trucs au fur et à mesure, c'est des frais fixes. En fait, c'est vraiment des frais fixes qui représentent un bon pourcentage finalement de sorties hein, tous les mois. Et si on prend à l'année, si on multiplie par 12, hein, on se rend compte que ça fait 1400 euros, cette histoire-là quand même. C'est pas négligeable. Voilà, c'est pas négligeable. Donc, vous devez le savoir aussi hein, quand vous créez du contenu qu'il y a certains de ces outils là. Alors, ils sont peut-être pas indispensables. Hein. Moi, j'ai Canva Pro parce que notamment ça permet d'enlever les fonds. J'ai des polices spéciales et tout. Voilà, il y a des trucs. Je me dis, ouais, je pourrais m'en passer. ChatGPT, est-ce que je peux m'en passer oui ou non? Pourquoi d'ailleurs ChatGPT? Je voulais faire un test sur DALL-E qui est assez intéressant et je voulais surtout faire un test parce qu'il va beaucoup plus vite pour générer des pages de vente et analyser mes anciennes pages de vente et les réécrire. Et puis sur l'écriture aussi de certains passages d'un bouquin, de mon fameux bouquin Sam et tout, et de le faire travailler aussi sur la réécriture et tout avec des textes plus longs. Mais bon, l'un dans l'autre, je sais pas si ça vaut le coup. Et pour l'instant, c'est un test. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais il y a la nouvelle application de Microsoft, dont j'ai perdu le nom, vous permet d'accéder à ChatGPT-4 gratuitement, alors dans un truc un peu contraint hein, quand même, et générer des images aussi par DALL-E, hein, donc ça marche assez bien. Il y a moins de fonctionnalités, vous avez moins l'interaction sur certaines choses, il y a plus de limites, mais si c'est juste pour tester voir le ChatGPT-4, franchement, vous pouvez prendre ça. Si vous voulez aller plus loin, ChatGPT-4 en payant est quand même plus intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, il est assez intéressant. Il y a des trucs sur lesquels il ne réagit pas tout à fait de la même manière. Ouais, il donne pas tout à fait les mêmes réponses. Même si je pense aussi, c'est un petit peu un truc, une astuce marketing, d'enrober un peu les trucs, on a l'impression que c'est un peu meilleur. Il y a des trucs, c'est peut-être pas forcément meilleur, c'est peut-être plus alambiqué. C'est ça. On verra. Un truc. Bon, voilà. Donc, ça, c'était un point, on va dire, un peu sur le finance. J'ai pas la comptabilité finale de combien j'ai généré de chiffre d'affaires, finalement, sur l'année 2023. Je veux pas vous donner le chiffre, c'est que je sais pas. En fait, là, c'est en train de se boucler, là, maintenant, la comptabilité de ma coopérative. J'ai mon chiffre qui a un tout petit peu baissé par rapport à 2022. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression d'avoir développé des choses. Mais en fait, là où il a baissé, c'est qu'il y a eu un peu moins de pubs. Il y a eu certains annonceurs un peu différemment. On va dire que la publicité sur Kilomètre 42, c'était un petit peu structuré, un petit peu différemment. Il y en a eu un peu sur Sport Nutrition. Il y a eu des partenariats sur Sport Nutrition qui ont augmenté. J'ai eu des partenariats plus différents aussi qui ont augmenté et tout. Mais il y a eu certains annonceurs en moins, et notamment parce que sur Kilomètre 42, il y a eu 6 mois ou 7 mois même sans annonceurs du tout, ou alors des toutes petites annonceurs que ça rapportait 100€ par mois. Et là, il y a eu un gros trou, en fait, un vraiment gros trou sur 2023, et ce qui explique qu'en fait, par rapport à la fin de l'année était très intéressante sur 2023, mais le début d'année a été très, vraiment catastrophique, et je le dis vraiment catastrophique, surtout sur plein de plans. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un recul de chiffre d'affaires. Mais si tous les mois avaient été comme les derniers mois de l'année, franchement, ça aurait été très confortable. Je le dis, ça aurait été très confortable. Alors, ça m'a pas fait un salaire très confortable parce qu'il y a eu beaucoup de rattrapage et un gros trou à combler. C'est la loi de la trésorerie, de sortir de l'argent à un moment donné pour payer mon salaire dans la trésorerie. Puis pour maintenant, il faut le re-rentrer ensuite pour compenser. Mais c'est vrai que ces histoires-là, quand même, quand je vois un petit peu, je me dis, il faut que j'arrive à équilibrer vraiment sur l'année, avoir un lissage sur l'année. C'est pour ça que je développe beaucoup de choses autour de mes offres, des produits. C'est pour ça aussi que j'ai changé, que je suis passé sur Podia. Parce que quand même, au niveau des pages de vente, c'est un peu mieux. Et je trouve que j'ai plus vendu. Je me sens plus confortable aussi pour vendre, etc. Je trouve que les produits sont mieux structurés. Même si franchement, il y a des créateurs qui font un très gros chiffre en restant sur Kuneo, comme j'étais sur Kuneo. Là, il y a des trucs un peu différemment. Et puis en plus, ça va me permettre de faire venir la communauté de Master Running Club dessus. Et avant, la communauté du Hamster Zoning Club, avant que je coupe l'abonnement, me coûtait 25€ par mois sur Mighty Networks, qui est un outil séparé. Et en fait, j'avais que des outils séparés dans tous les sens. Le tout de passer sur Podia me permet de tout réunir en un seul outil. Et finalement, ça vaut le coup. Alors, c'est sûr que Podia, je vais leur faire chaque mois un gros chèque à partir de maintenant. Un gros chèque, non, parce que finalement, ça me coûte moins cher que d'avoir plein d'outils disséminés à droite à gauche. Ça va augmenter un petit peu si je prends quelques fonctionnalités supplémentaires. Mais je pense que par rapport au temps gagné, c'est intéressant. Deuxième sujet, j'ai fini de regarder le documentaire sur Squeezie. Si vous êtes abonné à mes mails du dimanche, je l'avais dit. Documentaire sur Squeezie, donc c'est sur Amazon Prime. Il y a 5 épisodes, environ 40-45 minutes. Alors, ceux qui ont vu Orelsan vont avoir l'impression quand même d'avoir un petit peu un copier-coller. En tout cas, dans la forme, pas dans les personnages, bien sûr, parce que Orelsan et Squeezie ne se ressemblent pas tout à fait. Mais on trouve Orelsan dans le documentaire sur Squeezie. Et en fait, il y a des trucs qui sont assez drôles. Alors, Orelsan, c'était son frère qu'il avait filmé pendant des années. Squeezie, c'est son réalisateur, le camarade, qu'il a filmé pendant des années aussi. Et en fait, c'est exactement le même format, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc. Il raconte, le caméraman raconte, comme le frère de Orelsan racontait, en montrant des images, il y a des dialogues, il y a des plans où il y a des interviews de différentes personnes, etc. Et des images de la famille, des images d'archives, il y a tout un truc comme ça. On voit, c'est structuré comme un, c'est vraiment feuilletonné, hein, donc on a le parcours, on a tout, on est pris en haleine, etc. On a envie de voir la suite. Et puis il y a des petits des personnes un peu qui changent et tout. Là on voit un peu le frère un petit peu, voilà. Et c'est vrai que il y a des moments en fait quand le frère de Squeezie parle, j'ai dit tiens cette scène là comme c'est fait, ça me ressemble à un truc que j'ai vu chez Orelsan. Mais je pense que en fait le documentaire d'Orelsan était tellement bien fait que c'est facile après de reprendre ça, et je me demande si c'est pas Amazon aussi qui dit bah voilà on a un bon modèle etc. On repart un peu sur ce type de modèle là. Bon, ça c'est pour la forme, j'ai envie de dire. Après, sur le contenu, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que c'est un vrai documentaire qui finalement montre les années qu'on vient de vivre sur la création de contenu et l'avènement des créateurs de contenu. C'est-à-dire de Squeezie, en fait, moi je suis pas un fan de Squeezie parce que je crois que j'avais jamais regardé une vidéo de Squeezie. C'est 18 millions d'abonnés sur YouTube. Je crois que c'est 8 sur Instagram, quelque chose comme ça. Donc c'est le numéro 1 sur YouTube en France, hein, 18 millions. Le deuxième, c'est Thibaut InShape maintenant. Et le troisième, et qui a dépassé Cyprien. D'ailleurs, Thibaut InShape, comment il a réussi à monter aussi vite ces derniers temps, c'est qu'il ne fait plus que de la muscu, il fait aussi de l'humour et tout. Et il fait beaucoup de shorts. Justement, il fait beaucoup de shorts. C'est ce qui aide aussi à grossir, à faire monter comme ça. Et le Squeezie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un documentaire sur finalement comment un gamin qui est... Franchement, qui est pas adapté au monde. il faut dire le contraire. C'est-à-dire qu'il joue. Alors, je sais pas à quel point ils ont joué le truc, mais il a des tics, il s'énerve, il est capable, il va se cacher pour jouer aux jeux vidéo toute la nuit, il joue en permanence, etc. Si sa mère lui coupe le wifi, il s'est ouvert la main parce qu'il a tapé dans un truc en pleine parce qu'elle lui a coupé le wifi en pleine partie, et donc il a tapé dans un, je sais pas quoi, une vitre, et il s'est cassé, enfin il s'est déchiré la main. Donc il s'est énervé, il crie en permanence dans sa chambre, très, avec des tics en plus, puis vraiment des tics de langage, des tics physiques, etc. Donc vraiment le gamin, vous savez, c'est Seth Godin dit les gamins, les gens bizarres en fait, les gens bizarres attirent des gens bizarres. Et on a tous un côté bizarre, il faut être bizarre. Et ce qui est très intéressant, c'est que Squeezie est vraiment bizarre, quoi. Sa manière de parler, sa voix, enfin tout est bizarre. Dans le début, et puis en fait, on se rend compte en fait que sa bizarrerie, ben c'est son grand trait de caractère, sa grande force, c'était sa bizarrerie. C'est-à-dire sa bizarrerie, c'est finalement sa manière de parler, sa manière de s'exciter sur les jeux vidéo, sa manière d'être passionné, sa manière d'être à fond dedans. Et ben ça en a fait en fait un personnage qui est vraiment lui-même en fait, hein. C'est vraiment lui-même qui est vraiment dedans, parce que en fait il a fait peut-être 2500 vidéos, donc il peut pas mentir en fait. En faisant autant de vidéos, on peut pas mentir, c'est pas possible. Et ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est que tous ces aspects qui seraient très bizarres et avec lesquels il aurait eu beaucoup de mal à devenir un métier classique, je veux dire comptable ou je sais pas quoi, ben deviennent en fait sa grande force. C'est-à-dire que ce personnage-là, ben s'est mis à jouer comme il était, à se filmer comme il était, à parler comme il était, à faire des blagues comme il était, etc. Et derrière, en fait, il y a plein de choses qui sont venues se greffer. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le soutien de son père au départ et la grande peur de sa mère. Ça, c'est un truc très classique, hein, que quelqu'un ait peur, que les parents aient peur et tout. Ce qui est marrant, c'est que le père, en fait, était un peu plutôt un geek, un techos, il travaillait dans l'informatique. Donc, il lui a fourni du matériel un peu pour le soutenir. Et la mère, elle était plutôt à freiner le truc. Et ça me rappelle d'ailleurs une anecdote. Quand je faisais la formation pro, j'avais fait une formation tourisme, et à midi, il y a une dizaine d'années, j'avais mangé avec les gens de la formation, et une maman m'avait dit « Oh, c'est Noël, mon fils, il veut une caméra pour faire des vidéos sur YouTube, il veut devenir YouTuber. Vous n'avez pas une idée pour l'en dissuader ?» Et à l'époque, je lui avais dit « Mais pourquoi l'en dissuader ? À mon avis, ça peut être un métier sympa. » Je dis « Moi, quand j'étais gamin, j'aurais voulu être testeur de jeux vidéo. » Et ben, ce qui est vrai. Mon rêve, c'était d'être testeur de jeux vidéo. Et donc, j'ai jamais été testeur de jeux vidéo. Hein, voilà, je suis rentré dans le truc, le carcan classique, passe ton bac, fais des études. Je me suis retrouvé à faire de la gestion, de la compta, de la vente, du marketing et tout ça, un truc comme ça. Heureusement, j'ai découvert Internet à ce moment-là. Ça a un peu sauvé ma vie, même si j'en ai payé les pots cassés parce que j'ai quand même essayé de rester dans un carcan, de dire il faut que je travaille dans des entreprises puis une collectivité pour avoir un travail sérieux. Et bon, j'en ai fini en étant harcelé, en étant gros, pas bien, etc. Donc voilà, ça m'a pas fonctionné. Peut-être que dans le jeu vidéo j'aurais bien tourné ou pas. Squeezie, il aurait pu devenir peut-être joueur professionnel s'il avait très bien joué en jeu e-sport, parce qu'il parle du e-sport à la fin. Ce qui n'avait pas été le cas. Lui, en fait, il est devenu un youtubeur, et en fait le numéro un des youtubeurs, c'est-à-dire la référence des youtubeurs, avec donc la mère qui a un peu peur, le père qui le soutient, mais qui franchement comprend pas toujours tout ce qui se passe, etc. Parce qu'il voit que ça grossit. Un travail acharné, des collaborations, et des collaborations qui sont vraiment très intéressantes. D'abord des collaborations, il y a un truc qui est intéressant chez Squeezie, c'est que il a quelques milliers d'abonnés, il se dit je vais faire un meet-up, ce qu'on appellerait maintenant un meet-up, une rencontre et tout avec ses abonnés. Il pense n'avoir personne et puis il se retrouve avec plein de gens. Alors il avait quoi, 50 000 abonnés. Donc ça veut dire que déjà il a le sens d'aller vers les gens, en fait, vraiment d'aller vers les gens. Et en ça il est précurseur, il a un côté précurseur qui est très fort. En fait on a toujours l'impression qu'il est un petit peu en avance et qu'il va débroussailler le chemin par rapport aux autres vidéastes qui sont derrière, qui sont sur YouTube. Donc lui, il commence à faire ça, et puis ça grossit, et puis il a une collaboration qui est aussi très forte, c'est celle avec Cyprien. Et Cyprien, c'est le grand absent finalement dans les témoignages de ce documentaire, parce que Cyprien n'est pas là, et en fait ils sont brouillés. Donc en fait, on a des éléments, et on a notamment le fait, on apprend par exemple que Cyprien, quand il s'est intéressé, quand il a vu l'histoire du jeu vidéo, il a senti le truc. Cyprien, c'était quand même le pape sur Internet, des vidéos et tout. Et ben, en fait, moi, je le suis, Cyprien, sous le nom de Monsieur Dream au départ, quand il a commencé. Donc, rappelez-vous, Monsieur Dream, Cyprien, dans sa chambre et tout, donc, qui se structure, qui devient vraiment le numéro un à l'époque. Et qui, en fait, au début, il devait faire une chaîne gaming. Ils avaient approché de chaîne gaming. Et en fait, il devait approcher avec Diablo, je sais pas combien, X, je sais pas quoi. Et finalement, il aime bien Cyprien, il aime bien, il aime bien ce que fait Squeezie. Et il lui propose de travailler avec lui. Et ils sont mis à faire des vidéos, ils sont mis à faire plein de projets. Et donc, en fait, il a appris beaucoup de choses. Et c'est là où on voit que les collaborations, il a appris beaucoup de choses. Et puis, un autre élément, une autre collaboration qui est très forte, c'est que finalement, Squeezie, ben, il a eu, lui, il était sur le côté créatif, et puis il avait quelqu'un derrière, je crois que c'est Laurent, il s'appelle, qui était sur le côté management, sur le côté la publicité, sur les sponsoring, etc., qui gérait, en fait. Et c'est toujours très intéressant, ce côté. Je trouve, vous savez, j'en avais parlé la dernière fois, quand on est entrepreneur, quand on est solopreneur, notamment tout seul dans son coin, on a un côté créateur, un côté entrepreneur. Squeezie, il a le côté très créateur au départ, et il a l'entrepreneur à côté de lui, en fait. Et les deux travaillent bien ensemble. Après, Squeezie, il a le côté entrepreneur qui est très développé, qui s'est très développé. Mais au début, il avait vraiment ce côté très créateur. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment, finalement, avec une petite équipe au départ, il était seul dans son coin, comment il se structure, comment ça grossit, et puis comment aussi, en fait, il cherche à se renouveler, en fait, hein, parce qu'il fait pas que du jeu vidéo, donc il a fait plein de trucs, des formats d'émissions différents et tout, il a fait de la musique, comment finalement, bah, une petite blague qui part d'une vidéo devient un tube, comment en fait ce tube, il a envie ensuite de faire de la musique, il fait un album, ça rate, et puis comment après, il fait carrément un autre tube, on est encore un petit peu... presque par chance, mais qui se vend beaucoup et tout. D'ailleurs, le musicien qui le fait avec lui a même les félicitations des Daft Punk pour dire ah, c'est un super tube, etc. Votre truc, c'est génial comment c'est fait et tout. Donc, comme quoi. Et en fait, pourquoi? Parce que il a ce côté de se dire bah je vais aller voir au contact du public. Il découvre la chaleur du public, le relation avec le public, et il a envie d'aller rechercher ça jusqu'à GP Explorer avec son organisation. Il fait des courses, une course, vous savez, de voiture, une course de voiture là sur circuit. 37 000 personnes, 1 million de personnes qui regardent ça en live sur Twitch et tout. Donc on a ce côté précurseur, ce côté se renouveler aussi qui est vraiment important. Et ce qu'on voit aussi, ce qui est vraiment très intéressant dedans, c'est le côté il y a les collaborations aussi avec les autres créateurs de contenu, et on voit finalement plein de créateurs de contenu. Et dedans, en fait, peut-être vous rendez pas compte, peut-être on le voit pas ou on le savait pas trop, mais par exemple des personnes comme Lena Situation, qui est désormais l'une de celles qu'on met beaucoup en avant. Ou alors on a aussi, j'ai perdu son nom, qui fait du journalisme, j'ai perdu son nom là, mais tant pis, qui Hugo Décrypte, voilà, Hugo Décrypte, sont dans la sphère, sont des amis en fait de Squeezie. Et en fait, on voit même Squeezie qui à un moment donné n'avait jamais pris de vacances, quoi. Il a commencé à 13-14 ans dans sa chambre, et pendant des années, en fait, il a jamais fait de vraies vacances. Alors d'ailleurs, il peut pas faire des vraies vacances parce que dès qu'on le reconnaît, tous les gamins viennent vers lui, ils ont l'impression que c'est un pote, il lui tape sur l'épaule, etc. Enfin voilà, il y a aucune limite. Hein. Enfin, franchement, c'est pas comme quand ils le disent d'ailleurs, ils disent quand on croise un acteur, on est un petit peu intimidé, quand on croise Squeezie, on a l'impression de tellement bien le connaître qu'on va lui taper sur l'épaule, et il se retrouve avec plein de gens qui viennent le voir. Et dans ces vacances-là, en fait, eh ben, on se rend compte qu'il les a pris avec Lina Situation, avec il y a Hugo Décrypte, et puis ensuite il a d'autres créateurs avec lesquels il a bien travaillé, avec lesquels il est partenaire, avec lesquels il est entrepreneur. On pense à Gotaga par exemple, qui était vraiment dans le jeu vidéo, mais qui a été pro, hein, en e-sport. Et on voit même à la fin, et c'est le côté précurseur qui est aussi intéressant, c'est que Squeezie, il monte une équipe en fait de e-sport, carrément une équipe de e-sport, qui est championne de France, championne d'Europe et tout, avec vraiment la structure, quoi. C'est-à-dire qu'ils lui donnent un logo, ils font une vidéo, ils font des maillots, ils embauchent un entraîneur, on voit de la préparation physique, de la préparation mentale, on voit tout le truc, il amène des supporters, enfin, il y a vraiment tout ce truc-là. Et c'est précurseur. Franchement, c'est un côté précurseur aussi. L'autre côté précurseur, c'est qu'il est allé se cogner, en fait, à la moquerie des médias, Ardisson et compagnie, qui sont foutus de sa gueule, mais pas que, en fait, parce qu'on s'y voit Natou, on voit d'autres créateurs comme ça qui ont été invités sur les grands plateaux et à qui on a dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire derrière, c'est pas sérieux YouTube et tout. Et puis Gérard Ardisson qui dit ouais, mais ça veut dire quoi finalement d'avoir 1 million de vues sur une vidéo, ça veut rien dire. On aurait presque envie de dire à Ardisson, mais enfin, t'es tellement déconnecté de la réalité, mon gars. Pourquoi est-ce que le million de vues de YouTube ne veut rien dire et que ton million de personnes qui te regardent ton émission du samedi soir serait plus valable. D'autant que Médiamétrie, il y a un truc en plus qui est drôle, c'est que c'est des boîtiers. Et c'est en fait, il y a des boîtiers chez quelques milliers de personnes et on multiplie les chiffres de quelques boîtiers en disant bah ça représente la population. Donc on imagine qu'à partir des boîtiers, des quelques milliers de boîtiers qui sont mis en France sur les comportements d'usage des gens qui ont le boîtier chez eux, qui regardent la télé, ça, on sait exactement combien il y avait de millions de personnes qui regardaient. J'ai envie de dire que les statistiques, si on considère que ces chaînes de YouTube sont un peu pipées, ce qui est le cas, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, sur les stats, vous savez, est-ce que c'est vu entièrement ou pas entièrement? C'était un petit peu ça aussi qu'on disait. Ouais, mais est-ce que finalement, 1 million de vues, c'est juste des gens qui regardent la vidéo au début, qui restent à la fin et tout? Ben, si on a ce côté moquerie, on pourrait dire, mais Ardisson, tu sais, ton boîtier, les boîtiers Médiamétrie, est-ce qu'ils sont beaucoup plus certains? Est-ce que t'es sûr qu'il n'y a pas un truc qui est-ce que tu les rencontres vraiment, les gens dans la rue et tout? Parce que lui, il les rencontre. Mais en fait, ils sont foutus vraiment de sa gueule, en fait. Et ils sont foutus de la gueule de tous les créateurs de contenu à l'époque. Et ça crée un truc qui est très intéressant, c'est que ça crée en fait des tribus, des clans. Ça a resserré les liens de la communauté, déjà entre les créateurs YouTube, entre eux, et puis finalement, entre ceux qui les adoraient et puis les vieux médias. Et c'est vrai que en fait, on a d'un côté ces créateurs de contenu plutôt jeunes, il a 27 ans, hein, Squeezie, c'est une autre génération, par rapport à moi. Donc, il y a vraiment ces jeunes créateurs. Et à côté, il y avait les vieux, comme ça, là. Et puis, bah, finalement, les jeunes, ils ont dit, bah, attends, Ardisson, c'est qu'un connard, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est qu'un vieillard et tout. Nous, on est derrière toi, on va te soutenir à fond. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. La communauté a soutenu. Et donc, ça a fait des clans. Et finalement, c'est l'idéal en marketing. Et c'est ça le truc le plus fort. C'est-à-dire que le vieux, finalement, j'ai envie de dire, il l'attaque. Il aurait pas dû l'attaquer. S'il avait été malin, Ardisson, il aurait tapé sur l'épaule en disant, tu peux pas m'inviter dans des vidéos chez toi à faire des trucs sympas et tout pour essayer de redorer un peu son image par rapport à des plus jeunes, etc. C'est un petit peu ce qu'avait joué Macron, d'ailleurs, sur son élection, pour l'élection présidentielle. Quand il faisait les vidéos dans le petit journal avec Cyril Hildin qui chantait et tout, il paraissait comme un jeune ministre comparé au vieux à côté. Il est élu comme ça. Bon, après, la suite, c'est la suite. Mais en tout cas, quand il faisait ça, il paraissait jeune. Il s'était mis plutôt dans la poche un média, un public jeune sur ces aspects-là, avec une image jeune, en disant « je vais plutôt jouer avec eux que contre eux ». Et Ardisson, en fait, il s'est foutu de leur gueule. Et donc, au lieu que les gens disent « bah tiens, Ardisson, finalement, il serait peut-être un peu passivieux et un peu sympa », eh bien, ils lui ont tapé sur la gueule, les soutiens de Squeezie. Et ils ont raison. Et en fait, c'est un truc marketing idéal. C'est-à-dire que ça divise le monde en tribus et ça forme un ennemi. Et ce format de l'ennemi, on le connaît tous. C'est-à-dire que c'est la guerre Pepsi contre Cola, c'est la guerre entre Apple et le monde Apple et le monde de PC. Quand même, il y en a eu des vidéos. Alors en France, c'est vrai que on n'a pas la pub comparative et tout, donc on n'a jamais été exposé nous trop en France à ces images-là. Mais si vous avez regardé Culture, vous savez comment Coca et Pepsi avaient des pubs l'un contre l'autre. Comment on a cette guerre qui a été aussi entre Mac et PC. On a un peu plus vu les vidéos. Vous savez, il y avait le Mac qui était sympa et PC était un peu vieillot, là, un peu gros vieillot et tout. On avait un peu ces images-là, vous savez, ces pubs-là et tout. Et finalement, on l'a un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu dans Harry Potter, les différentes luttes entre les différentes maisons, et puis entre les ceux qui sont sorciers et ceux qui ne le seraient pas, j'ai envie de dire. Enfin, on a un tout petit peu ce truc-là. Et ces guerres-là, on les a toujours, en fait. On a toujours. Alors, on le retrouve dans le monde du sport avec les supporters de foot, on le retrouve dans plein de domaines, parce que c'est l'idéal, en fait. C'est-à-dire que ça désigne un ennemi, et que cet ennemi, en fait, eh ben, ça permet de raconter une histoire, que tout le monde se raconte une histoire, que toute la communauté se soude autour de l'histoire contre quelqu'un. Et finalement, on peut dire, ben voilà, voici pourquoi on l'aime pas, voici pourquoi il nous aime pas, donc on va se défendre. Donc défendez-nous. On défend notre communauté, on se défend, quoi. Et donc ça fait grossir, ça resserre les liens. Et finalement, Ardisson, avec certains, on pourrait dire les Drucker et compagnie, sûrement, Denisot, je crois aussi, et puis comment il s'appelle aussi, donc j'ai perdu son nom, qui avait repris le petit journal et tout, qui était pourtant jeune à l'époque, à la grande époque du grand journal de Denisot, il paraissait comme ça, un peu plus jeune, un peu plus rigolo, et puis en vieillissant, bah, il est devenu aussi un peu dans la tranche des vieux cons, donc j'ai perdu son nom, mais vous voyez sûrement celui que je veux dire, et ben, à un moment donné, voilà, ça crée ce truc-là, et en fait, c'est un peu, moi, le sentiment. Tout à l'heure, quand je courais, toujours en courant, il y a des idées qui viennent, je me disais, mais finalement, à ma manière, il y a cet aspect-là que je crée un peu dans ce podcast, quand j'avais placé en le nom de cheveux blancs idées longues. C'était un peu ce truc-là, et dans mon intro, en fait, tout à l'heure, j'ai redonné, c'est un peu ce truc-là de dire, bah voilà, on a dit Internet, c'est un truc de jeune, la créateur économie, c'est un truc de jeune, etc. Et nous, on a des cheveux gris, on aurait raté notre truc, c'est trop tard pour nous, on n'est plus de la bonne génération, et ben si, on peut le faire. Et ouais, j'ai vraiment envie qu'on soit là-dedans. C'est-à-dire qu'on l'a jamais fait, pour certains d'entre vous, ne l'a jamais fait, mais j'ai envie de dire, on va le faire. C'est-à-dire qu'on est la communauté, les darons sur Internet, on va faire nos vidéos. C'est pas parce qu'on a 40 ou 50 ans, c'est pas parce que on a peu à avoir un métier avant. Moi, j'ai été salarié pendant des années, j'étais enseignant aussi, j'ai fait plein de trucs. Finalement, quand je me regarde, je pensais qu'il va pas avoir fait tout un métier, puis finalement, j'ai fait plein de métiers différents ou plein de trucs, hein, finalement, quand on regarde un petit peu les choses. Et ben, ça là, finalement, c'est de l'expérience, et on va se servir de l'expérience, et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit d'exister sur Internet, quoi. Donc, les darons peuvent exister sur Internet. Nous sommes des darons, et les darons, avec les cheveux gris, ben voilà, on a le droit de se faire une place. Et finalement, on va pas le faire comme les jeunes. On va pas raconter les mêmes blagues. On va pas imiter. On peut pas avoir le même rythme, on peut pas avoir les mêmes idées, on peut pas avoir les mêmes trucs à la con, j'ai envie de dire, sur des choses. Mais on peut exister. Voilà, c'est vraiment ce que je vous dis. On peut exister. Je dis pas qu'on est en lutte contre les jeunes, hein, mais on est plutôt sur des communautés qui finalement ne fonctionnent pas de la même manière. Et je vous en parlerai d'un autre truc parce que c'est aussi un peu ce qui se passe dans l'entrepreneuriat aussi en ce moment. Voilà, c'était ma truc sur Squeezie. Donc dites-moi après ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vois de cette manière-là. En ce moment, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. D'abord, c'est en ce moment sur quoi moi je travaille. Alors, sur quoi je travaille, en fait, je me forme en ce moment, donc sur des choses autour des plutôt aspects neurosciences, sciences comportementales, avec un bout neurosciences sur le passage à l'action, et comment est-ce qu'on change un peu les habitudes, comment on passe à l'action et tout. Donc là, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup, je creuse beaucoup le sujet et tout, il y a des trucs qui sont vraiment très intéressants. Et de même, je lis un livre qui s'appelle « Déclic, quand un mot suffit pour changer une vie », et c'est sur l'idée du reboot, des sciences comportementales, et le mot « reboot », c'est comment finalement on est capable de changer le comportement de certaines personnes, comment on est capable de les convaincre de passer à l'action. S'il y a des trucs très intéressants, vraiment des trucs très intéressants, alors j'en ai lu... un gros tiers, on va dire, parce qu'en ce moment, en même moment, je lis Ali Abdal, donc voilà, je voudrais finir Ali Abdal parce que c'est vraiment très intéressant aussi. Et l'un dans l'autre, en fait, le but, c'est pour moi, c'est d'améliorer mon accompagnement en coaching, améliorer le coaching mental, la préparation mentale, etc. Je vous ai dit aussi que j'allais me former à des nouvelles techniques de coaching mental, de préparation mentale sur l'année. Ça n'a pas démarré. Donc voilà, ce gros truc-là, c'est un petit peu en ce moment mes grandes aspirations, notamment sur le changement. Comment est-ce qu'on amène les gens à changer? Parce que c'est tellement dommage, hein, en coaching, d'avoir des personnes qui finalement, de semaine en semaine ou de mois en mois, on a l'impression qu'il y a un truc qui résiste. Il y a un facteur de résistance, c'est-à-dire que on a discuté, on a mis en place des stratégies et tout, mais elles s'appliquent pas, ça avance pas comme on veut, parce qu'il y a un phénomène de résistance qui est interne, qui est vraiment au cœur du cerveau, j'ai envie de dire. Et ça, il faut aller le chercher, et c'est exactement ce qui m'intéresse en ce moment, c'est où aller le chercher, comment aller chercher ce truc-là. Ça, c'est vraiment un point qui m'intéresse vraiment. Enfin, pour terminer, mon sentiment du moment, je vous en ai un petit peu parlé déjà. Et puis c'est un truc qui pour moi est important. Je vois vraiment avec beaucoup de contenu que l'année est vraiment celle d'une prise de conscience de certains, et ça va grossir, je pense encore, et on va le voir de plus en plus fortement. On a beaucoup ce phénomène sur la sphère américaine, anglo-saxonne et tout, et ça va vraiment être beaucoup plus fort cette année. C'est le fait que grossir à tout prix n'est pas fait pour tout le monde, et que tout le monde n'a pas vocation à créer une start-up qui lève des millions, qu'on n'ait pas tous envie de créer des licornes, et qu'on peut être un entrepreneur, j'ai envie de dire, avec une échelle raisonnable. Alors, j'ai déjà parlé de Matt Davella, qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, en disant que finalement, il s'était séparé d'une partie de son équipe, qu'il revenait à travailler tout seul, parce que finalement, en ayant une grosse équipe, ça mettait beaucoup de pression sur ses épaules, hein, pour rentrer du chiffre d'affaires, pour manager des gens, et que finalement, il faisait plus ce qui l'intéressait vraiment, c'est-à-dire qu'il était plus manager que créateur de vidéos, et lui, ce qui l'intéresse, c'était de faire des vidéos, partager ses idées et tout. Et donc, il a revu beaucoup de choses, hein, arrêter une formation, licencier des personnes, enfin, ou arrêter de travailler avec certaines personnes, etc. Il a revu les choses pour travailler et pour profiter plus de sa vie, plus de sa famille, maintenant il est papa et tout. Ça, c'est vraiment un truc, un vrai point qui est intéressant et qui est, en fait, qu'on retrouve depuis en fil rouge depuis quelques années, notamment le livre Company of One, que j'ai adoré, franchement, avait annoncé la couleur en montrant beaucoup d'exemples, en montrant des entrepreneurs dans cette logique-là. Donc là, c'est vraiment un truc qui était intéressant. Et puis, on se rend compte, en fait, que Certaines personnes l'appliquent. Alors, dans le livre Compagnie aux Foines, il parle de Psychotactics, le site Psychotactics Shin Desouza, qui fait ça depuis des années. Qui en fait, alors lui, il est pas papa, mais il est tonton, donc il va chercher ses nièces à l'école. À la fin, il est en Nouvelle-Zélande, il est d'origine indienne, il habite en Nouvelle-Zélande. Il s'en occupe, il leur fait faire les devoirs tous les jours et tout. Enfin voilà, il est vraiment présent. Et en fait, il prend 3 mois de vacances par an pour voyager. Et puis à côté de ça, il fait des cours, il fait des mails, il fait du podcast, il fait plein de choses comme ça. Mais en fait, avec un temps de travail qui est très réduit. Et surtout, le but du jeu pour lui, c'est qu'il travaille avec sa femme. Et puis, il travaille que tous les deux, je crois. Je crois même pas qu'ils ont de reste d'équipe. Ou alors, très anecdotiquement. Et voilà. Et puis, il y a d'autres cas avec des BD, des auteurs et tout. Dans le livre Compagnie aux Foines, c'est très intéressant. Et on pourrait enrichir la liste. Je vous ai déparé, par exemple, Ali Abdal. Ali Abdal, il est sur une tendance qui est un peu différente. C'est-à-dire que lui, il a une équipe qui grossit. Mais en fait, il ne dirige qu'une seule personne. C'est-à-dire qu'en fait, il a embauché quelqu'un qui est... C'est comme s'il était PDG de sa société, et puis qu'en dessous, il avait un directeur général que lui, il manage le directeur général, que le directeur général, c'est lui qui manage tout le reste des personnes. Donc, c'est une autre manière de voir les choses. Mais en fait, je pense aussi à une personne comme Kazinestat. Kazinestat, on a l'impression, à un moment donné, il a essayé de monter des sites, il a essayé de monter un réseau social, qu'il a revendu, il y a tout un tas de trucs qu'il a essayé de monter, revendre, etc. Et en fait, on se rend compte que finalement, il est resté assez seul. Alors, je sais pas s'il a... je crois qu'Azinestat, c'est son plaisir finalement. Puis alors maintenant, avec les reventes de ce qu'il a fait, de ses projets, de combien il gagne, il a le confort pour le faire. Il aurait pu avoir des monteurs et tout. Mais je crois que son grand plaisir finalement, c'est de faire des vidéos, de les monter. Faire des vidéos, les monter, raconter des histoires comme ça. Il avait arrêté à un moment donné, il avait été une sorte de burn-out. Hein, c'était pas possible de travailler aussi tout comment il le faisait. Mais on se rend compte qu'il revient sur par certains moments, il arrête, il freine et tout. Il a moins de pression de résultat aussi, ça c'est clair. Mais en fait, il est sur vraiment ce phénomène-là de pas avoir une grosse équipe derrière. Et puis, j'avais raté une autre personne, c'est Vanessa Lowe. Et Vanessa Lowe, en fait, j'avais totalement loupé, mais tout à l'heure, en regardant un petit peu dans mes liens, et ben, je me suis rendu compte que Vanessa Lowe, alors si vous la connaissez pas, c'est une entrepreneuse qui avait... mais une croissance qui était juste énorme. C'est-à-dire qu'elle était partie en ayant... c'était son second boulot. Elle avait réussi, en fait, à développer une grosse communauté, une grosse visibilité. Elle avait deux... En tant qu'entrepreneuse, elle a 250 000 abonnés, je crois, un truc comme ça sur Instagram. Et l'an dernier, elle a fait une vidéo. Et elle a fait un post en disant « Je prends un congé sabbatique sans aucune durée ». Et maintenant, ça fera presque un an qu'elle a annoncé ça. Et en fait, elle avait tout stoppé en février dernier, février 2023. Elle fait des vidéos de début d'année, mes prédictions et tout. Et puis d'un coup, elle a tout arrêté en disant « ça me correspond plus ». Elle faisait beaucoup de chiffres, je pense que c'est des millions de chiffres, de dollars de chiffre d'affaires, une équipe et tout. Et elle a considéré qu'en fait, ça lui allait plus du tout, que c'était pas du tout la vie qu'elle voulait, que c'était pas du tout ce qu'elle recherchait. Et elle a tout stoppé. Et là, a priori, elle a pas repris. Et en fait, son site, et même son site, et c'est-à-dire que son nom de domaine est juste parqué. Il y a plus de site et tout. Les pages de vente, certains produits sont encore là, mais finalement, la plupart des choses sont carrément arrêtées. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu la vente de l'idée qu'on pouvait faire des millions, qu'il fallait absolument grossir. Et ça, c'est le modèle startup qu'il faut absolument grossir, qui va marcher dans certains cas, mais qui, pour la création de contenu et pour ce que nous, on veut faire et tout, à mon avis, n'est pas du tout adapté. Moi, je suis beaucoup plus partisan du modèle solopreneur, qui n'est pas d'être forcément tout seul dans un coin, mais c'est un créateur qui peut être tout seul dans son coin, comme on est au départ, mais qui, on peut se dire, on peut avoir une petite équipe de freelance autour sur quelques missions qui sont même, c'est par exemple quelqu'un qui pourrait vous aider pour certains cas. Alors certains c'est monter un podcast, certains c'est monter des vidéos, avoir un coach, avoir quelqu'un qui fait du copywriting, des choses comme ça en fait. Je sais par exemple il y a des créateurs de contenu qui font aussi des ventes de formation, qui ont décidé par exemple de sous-traiter la rédaction des pages de vente de leur formation à d'autres personnes, non pas qu'elles sachent pas le faire, mais parce qu'elles jugent qu'en fait ça leur prendrait du temps, ils ont pas envie de le faire. Bon voilà, on a des choses comme ça. C'est pas d'avoir des salariés, c'est pas d'avoir une grosse équipe, c'est pas d'avoir une grosse pression de chiffre d'affaires obligatoire systématiquement, c'est d'avoir beaucoup plus de flexibilité et surtout de privilégier le confort de vie, le temps et de faire ce qui nous plaît, sur lequel on est le plus fort, plutôt que d'avoir toutes les tâches de management, etc. Et j'ai envie de dire que c'est un peu la distinction entre l'artisan et la PME. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression, alors sans parler des grandes entreprises, il y a des PME, des grandes entreprises qui ont besoin d'avoir une certaine taille pour se développer à l'international, France, international, le monde, etc. Mais en fait, dans toutes les villes, dans tous les domaines, on a toujours des artisans. On a toujours des artisans. Et je peux prendre le cas du vélo, par exemple, hein, parce que le cas du vélo, c'est un truc qui est assez important. On a des grosses sociétés dans le vélo, on a des sociétés moyennes dans le vélo, et puis on a des artisans qui vont faire des cadres. 2-3 cadres. D'ailleurs, dans Kilomètre 42, cette semaine, l'épisode de cette semaine, c'est quelqu'un qui est en Auvergne, qui se lance en faisant des cadres en bois qu'il va en faire peut-être 2-3 dans l'année, ou peut-être un peu plus, je sais pas combien il va en faire au final, mais qui pour l'instant va en faire un ou deux, et qui va développer ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant de se dire que tout le monde a de la place, en fait. Tout le monde a de la place, tous les métiers. Par exemple, moi, dans ma rue, j'ai encore une couturière. Il y a la fast fashion, il y a les grandes boîtes de vêtements, il y a des boîtes de plus moyennes de vêtements et tout, mais j'ai encore une couturière. Alors, elle fait beaucoup de reprises, etc., mais de pouvoir dessiner des vêtements, de pouvoir faire ça. Et vous avez des artisans dans le vêtement et tout, comme vous avez des grandes boîtes, et on a tout. Et en fait, tout peut exister. Tout peut exister. Il n'y a pas un modèle qui doit vraiment exploser les autres, etc. Il n'y a pas un modèle qui doit s'imposer par-dessus les autres. Je crois que tout peut exister, mais c'est vrai qu'on a une tendance à voir ceux qui avaient le plus de moyens. C'est-à-dire que c'était grossir, grossir, grossir pour faire le plus de chiffres et avoir de la publicité et donc inonder avec l'image qu'on voulait vendre. Moi, j'ai vu des créateurs, j'en ai vu certains qui font les masterminds. Et en fait, les masterminds de certains créateurs, on les voit très bien. C'est-à-dire que eux, c'est la course au million. C'est dire, oui, j'ai fait un million de ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et tout. C'est une course qui peut exister, mais qui en fait ne convient pas à tout le monde et qui, moi, me convient pas et qui, je pense, en fait, pour le stade où on en est, nous, là, hein, nous, là, quand on commence un peu tardivement, on n'a peut-être pas cette fin qu'ont des jeunes. Et j'avais donné l'image la dernière fois de certains jeunes qui sont, par exemple, qui disent « Ouais, moi, je veux pas payer d'impôts, je veux faire beaucoup de chiffre d'affaires, je vais acheter des grosses bagnoles, je pars à Dubaï, etc. et tout. » Nous, ça, on peut pas ou on veut pas le faire. En tout cas, on n'a pas cette aspiration à vouloir faire ça. Nous, notre aspiration, pour beaucoup, et si je me plante, vous me le dites, et comme ça, on sera clair. Mais je pense que c'est beaucoup de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une activité qui nous permet de vivre et de vivre assez confortablement, tout en ayant du temps pour faire ce que je veux faire. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pouvoir créer du contenu, c'est pouvoir créer du contenu sur des sujets qui m'intéressent, c'est pour accompagner quelques personnes en coaching, c'est pour faire des formations, pouvoir aussi aller courir, aller faire du vélo, préparer un Ironman si j'ai envie, préparer des courses, etc. Et vous, c'est aussi d'autres choses. Mais peut-être que vous, c'est d'avoir un boulot puis de créer du contenu à côté. Peut-être que d'autres, c'est pouvoir dire, bah tiens, je vais créer du contenu et partir en van. J'en connais qui font ça et qui ont 40 ou 50 ans, qui vivent dans un van tout en créant du contenu, tout en faisant du coaching, etc. Et qui n'aspirent pas à faire des millions, mais qui aspirent juste en fait à avoir une vie dans laquelle ils se sentent bien. Et ça ne veut pas dire d'avoir forcément des salariés, etc. Voilà, ça peut avoir une secrétaire administrative, quelqu'un qui aide à monter des choses, quelqu'un qui prend des rendez-vous, quelqu'un pour la comptabilité, des choses comme ça, mais peut-être pas des grosses équipes. Voilà, ensuite, maintenant, pour terminer, au programme très prochainement, ça sera ma conclusion, un programme sur, je suis en train de travailler dessus, sur le temps, la gestion du temps, et notamment comment prendre le temps de faire du sport, de bouger et de prendre soin de soi. C'est un petit peu lié. Je l'ai articulé plutôt sport pour l'instant, mais peut-être vous allez me dire que ça peut intéresser tout le monde, autre que sport. Ça sera à vous de me dire. En tout cas, j'ai mis un questionnaire. Je vous mets le lien dans la description du questionnaire. Si vous êtes abonné à mon compte Instagram, @BertrandSoulier, ou à mon mail, de toute façon, vous l'avez déjà reçu, mais si vous avez oublié de le remplir, remplissez-le. Si vous n'avez pas vu passer le lien, il y a un lien là, juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus, vous remplissez. Et moi, ça me permet en fait de créer le programme vraiment qui va coller le plus possible à vos aspirations, à vos besoins, et aussi de l'articuler pour qu'il vous soit vraiment utile à vous, le plus utile à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à le remplir. Et puis je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à aller cliquer sur les autres liens si j'en ai mis. Je vous remercie aussi pour les messages que je peux recevoir, les questions, les encouragements, vos retours. Je vous remercie beaucoup pour tous ces retours que vous pouvez me faire. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre une petite note 5 étoiles. Il y a le podcast a besoin d'un petit coup de main pour remonter dans les classements. Et puis un petit commentaire sur Spotify si vous écoutez sur Spotify. Et on se retrouve normalement dans la semaine pour un autre épisode et la semaine prochaine pour d'autres épisodes et de nouveaux carnets de bord. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et on se retrouve donc très vite. Ciao ciao les créateurs.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.